temps et sa mesure ont toujours été précieux pour l'être humain. Cadran solaire, clepsydre, sablier, montre, horloge, chronomètre, réveil, autant d'instruments qui ont permis de calculer, vérifier ou lire l'heure. Les avancées technologiques ont fait que ces instruments de mesure ont sans cesse évolué. De plus en plus précis, rapides, voire même parfois transformés en de véritables prouesses mécaniques, rouages et engrenages ont connu leurs heures de gloire dans des périodes historiques précises. Bernard Seneca, président de l'Office culturel et passionné d'horlogerie, s'est associé au Musée des Beaux-Arts d'Arras pour monter l'exposition « La montre de carrosse et temps mesuré du voyage de Louis XI à Émile Loubet ». On remonte donc le temps avec lui pour en savoir plus sur cette expo. Il nous retracera d'abord dans les grandes lignes un historique du style d'horlogerie que le visiteur pourra découvrir au sein de celle-ci. Et puis on fera un retour vers le futur pour comprendre comment la mesure du temps se comporte aujourd'hui.
L'idée de l'exposition m'est venue d'une conservatrice qui était Annick Notaire, qui a été conservateur ici à Arras et qui est maintenant conservateur des musées de La Rochelle. Et Annick Notaire avait souhaité faire une exposition sur la mesure du temps du voyage, évidemment plus orientée sur le voyage maritime avec les chronomètres de marine. Lorsqu'il y a eu donc les carrosses de Versailles à Arras, j'ai donc proposé, en me rappelant l'idée qui avait été émise, une exposition concernant la mesure du temps, mais par voie terrestre, c'est-à-dire le transport hippomobile. Et donc, c'est donc l'exposition que vous avez actuellement, qui sera présentée au musée d'Arras jusqu'au 9 juillet.
Au musée d'Arras, mais nulle part ailleurs ?
Alors, au musée d'Arras, c'est nulle part ailleurs. Alors, deux raisons. C'est que lorsque j'ai proposé cette exposition, on m'avait demandé s'il était possible de la mettre directement dans l'exposition Versailles. Et j'ai dû refuser puisque cette exposition est exclusivement de pièces provenant de collections privées. Et c'était difficile de demander aux collectionneurs qui ont déjà la gentillesse de partager leur trésor pour le plaisir du plus grand nombre, c'était très difficile de leur dire, écoutez, vous allez en être privé 18 mois. Donc, l'on ne pouvait faire que quelque chose qui soit relativement restreint. Et là aussi, on aurait pu partager avec un autre musée, comme La Rochelle, par exemple. Mais là aussi, mes collectionneurs qui sont, disons, de la partie nord de Paris, bien qu'il y en ait un qui soit sur Lyon, ne souhaitaient pas que leurs objets soient disséminés sur l'ensemble du territoire.
Comment vous avez réussi à justement avoir les contacts de tous ces collectionneurs ? Est-ce que vous-même travaillez peut-être dans l'horlogerie ?
Nous avons évidemment une maison qui a été au fait de ce métier, puisque nous sommes horlogers dans ce métier particulier de mesure du temps, et nous l'avons été depuis 1720, donc une grande tradition, mais aussi la particularité que toute ma carrière a été formée pour faire de la restauration d'horlogerie ancienne. Et donc, dans ces conditions, j'ai tissé un réseau d'amitié qui est national et même international, puisque à l'inauguration, il y aura les plus grands experts d'horlogerie suisse, italien, et français, anglais. Donc, ce réseau m'a permis de construire cette exposition, comme les précédentes, par exemple les inventeurs du temps, avec, où j'avais travaillé non seulement avec les collections privées, mais avec les collections du Louvre.
Quel genre de montre ou quel genre d'horloge on pourra voir au musée d'Arras ?
L'homme a toujours voulu mesurer son temps, bien sûr, mais aussi le temps de ses déplacements. Les premiers outils qu'il a pu utiliser, c'était sa propre ombre. Mais assez rapidement, s'est aperçu que l'on pouvait peut-être transporter un petit objet qui permettait de mesurer le temps. Et c'est un cadran solaire. Et c'est un petit cadran solaire qui est un cylindre de bois avec un petit index. Sur le cylindre de bois sont gravés des petits traits correspondant aux différents mois de l'année. Et ça s'appelle un cadran de berger. Or, ce cadran de berger, qui apparaît au 7e siècle, est un petit cadran qui va accompagner toute la mesure du temps du voyage. C'est-à-dire aussi bien la possibilité de transporter des petites horloges à feu, des petites horloges qui vont être les bougies graduées, qui vont être les horloges à eau, les clepsydres avec une sorte de petite mécanique, puisque le clepsydre est la première horloge qui va avoir la possibilité d'avoir un cadran. Et puis, donc, la première horloge mécanique, apparemment vers 1294, mais elle est gigantesque, et la première mécanique vraiment que l'on peut transporter, on pense vers 1360, 1350 à peu près, elle possède un ressort moteur et donc la force, au lieu d'être un poids, c'est un petit ressort qui est dans une boîte et qui permet le transport. À partir de là, on va avoir dans certains véhicules, surtout les véhicules royaux, on va avoir ce type de petite horloge mécanique transportable. Et cela va accompagner ce fameux cadran solaire jusque dans les années 1850, c'est-à-dire très très tard pour le cadran solaire. Mais en 1850, c'est le triomphe de la montre moderne déjà.
Vous parlez justement des montres qui étaient très imposantes et qui étaient surtout destinées à être transportées dans les carrosses royaux. Est-ce que l'horlogerie en général et le rapport au temps étaient surtout quelque chose de très luxueux et comment il est devenu populaire ?
L'exposition va le démontrer totalement. On a choisi d'abord le transport donc hippomobile. Donc on va partir à l'époque de Louis XI. Puisque Louis XI est venu à Arras en 1477, que c'est le premier roi à avoir transporté une petite horloge dans son véhicule. Alors c'était pas forcément un carrosse, hein, c'était un charrois. D'ailleurs les rois à l'époque ne montaient rarement dans leur véhicule, c'était plutôt pour les bagages, et le roi était plutôt sur son cheval. Bon, c'est vrai que Louis XI n'a pas laissé un très bon souvenir à Arras. Hein. Il avait déporté les habitants, il a ruiné le commerce du drap, donc, mais nous allons finir tout de même d'une façon un petit peu plus ludique avec la visite du président Émile Loubet en 1904 et qui lui vient à Arras pour l'exposition universelle du nord de la France et les grandes fêtes de gymnastique, accompagné d'ailleurs du roi des Belges. Et il est le dernier président de la République à utiliser un véhicule hippomobile, une sorte de calèche carrosse. Et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle une très très grosse montre qui est un régulateur de fiacre. Donc il est le dernier à avoir utilisé ce type non seulement de véhicule, mais aussi d'appareil horaire à l'intérieur du véhicule. Entre les deux, ben, il va y avoir évidemment une grande grande différence. Au début, ce n'est que des objets qui sont que pour une clientèle exceptionnelle, c'est-à-dire le pouvoir. Aussi bien le pouvoir royal, le pouvoir religieux, mais le pouvoir aussi, par exemple, de la grosse bourgeoisie qui va acquérir, à partir du XVIIe siècle, la possibilité d'avoir d'ailleurs une montre très robuste de voyage que l'on va appeler l'oignon parce qu'elle ressemble à un légume. C'est déjà une sorte de démocratisation par rapport à l'objet qui était utilisé que par les princes. Et puis, au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que la révolution, évidemment, va arriver, et cette révolution va faire que beaucoup d'objets vont perdre leur boîte luxueuse qui était destinée à l'aristocratie ou à la grande noblesse, qui était destinée aussi à une certaine bourgeoisie qui était arrivée, et ces montres vont être fondues, les boîtes vont être fondues, mais l'on va conserver les mouvements. Et ces mouvements vont être montés dans des petites boîtes de métal, d'argent ou d'argent, j'entends, et vont porter un nouveau cadran qui va afficher les idées de l'époque, c'est-à-dire les idées de la Révolution. On va retrouver donc une iconographie correspondant à l'arbre de la liberté, le bonnet phrygien, le coq, etc., le canon, l'appel à la liberté. On va avoir des montres qui vont être tout à fait particulières. Ce sont des montres décimales, parce qu'à cette époque-là, on va essayer d'appliquer le système décimal à l'horlogerie. Et vous aurez à l'exposition la possibilité de voir ce type de pièces qu'on a utilisées à Arras très très peu de temps, 6 mois, dans les années 1794. Et puis l'Empire va reprendre cette iconographie, toujours sur de la montre qui est populaire, puisqu'elle est avec une boîte simple, relativement modeste en matière précieuse. Et puis on va avoir ces montres construites jusqu'en 1830, à la Révolution des Trois Glorieuses. C'est le début de la montre populaire, parce que ça vaut encore tout de même un petit peu de sous. On a beau réutiliser les mouvements, on a beau faire des boîtes en métal, disons ce qu'on appelle vulgaire, cette montre, ça s'appelle, ce sont des montres paysannes, on les appelle comme ça, c'est encore une montre qui est faite pour le voyage, pour tout le monde, pour le déplacement, mais c'est une montre tout de même qui a encore une certaine valeur. Il faut le savoir tout de même que... Bon, ça correspond à plus de 2 mois et demi de travail d'un ouvrier. En 1880, un inventeur qui s'appelle Roscoff va construire une montre. Là, on rentre dans l'industrialisation, c'est-à-dire que bon, on ne réutilise pas des mouvements qui avaient été montés à la main ou dans les premières manufactures finis à la main. On a des mouvements qui deviennent des mouvements industriels. Et Roscoff va construire une montre un peu comme un réveil. Et il va donc mettre un cadran en carton, pas d'émail, une boîte en métal, mais alors là c'est du fer, et cette montre va devenir extrêmement populaire et va s'appeler la montre du prolétaire. À partir de cette époque-là, il est certain que l'ensemble d'une population va pouvoir acquérir la montre. C'est encore tout de même relativement coûteux, c'est plus de 15 jours de travail pour un ouvrier, mais tout de même, on a fait un gros gros progrès pour la possibilité d'acquérir la mesure du temps dans ses déplacements.
Au départ, évidemment, la montre et le rapport au temps étaient un produit plutôt luxueux. Il est devenu plus populaire pendant très longtemps. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que la montre ou l'horlogerie redevient un produit de luxe ? Je pense notamment à une petite phrase d'un homme politique dont je tairai le nom qui avait dit « Si aujourd'hui on n'a pas une Rolex, bah, on n'a rien ». Donc voilà. Alors,
dans l'exposition, vous allez avoir, si vous voulez, des produits de luxe qui n'apporte rien à la mesure du temps. En fait, c'est le décor, c'est la personne qui portait cet objet voulait paraître. On est dans le XVIIe et le XVIIIe siècle. C'est pour ça que vous allez voir des choses absolument différentes dans l'exposition. Il y a des objets qui sont des objets utilitaires, peut-être coûteux déjà à l'époque parce que la construction était coûteuse, mais utilitaire. Il y a des objets ornés d'émaux, de brillants, ou ces montres de carrosse, puisque le thème tout de même c'est la montre de carrosse, qui sont des objets finalement qui n'avaient pas tellement d'utilité dans le véhicule, puisque la personne qui possédait une montre de carrosse, qui pour certaines valait le prix du véhicule, possédait forcément une montre sur elle. Donc pourquoi avoir cette mesure du temps à l'intérieur du véhicule en plus ? Bon, c'est comme ça, c'est peut-être aussi dans notre génération actuelle, le fait que l'on ait cette tradition d'avoir quelque chose dans le véhicule, c'est la montre du tableau de bord que l'on a actuellement en électronique. Hein. Mais enfin, à part ça, à l'époque, c'était tout de même quelque chose d'énorme et de très coûteux. Par contre, la construction que l'on a et la popularité de la mesure du temps, au XIXe siècle, va être bien marquée entre la bourgeoisie et le populaire. Mais à chaque fois, jusque dans les années 50 à peu près, pour l'horlogerie qui correspond à l'horlogerie mécanique, tous les progrès ont été faits, même les plus coûteux, en fonction de ce que l'homme voulait acquérir, c'est-à-dire la conquête de la précision. Or, actuellement, maintenant, avec l'électronique, avec le quartz, on a une possibilité d'avoir des objets qui mesurent le temps, le chronométrage, la possibilité d'avoir le réveil, la possibilité d'avoir tout ce que vous voulez sur une montre, même des temps différents, etc., que l'on est capable de mettre dans des mécaniques mécaniques, c'est-à-dire en accumulant toutes les complexités. Mais finalement, d'un côté, vous aurez un objet qui va vous coûter 30 euros et qui va vous donner une précision absolument remarquable, puisque avec l'électronique, c'est ce que l'on a. et de l'autre côté un objet de luxe qui pour certains dépasse les 100 000 euros. Donc moi, ce qui m'interpelle, si vous voulez, c'est que là, l'horlogerie n'est plus au service d'un progrès pour l'homme. Elle est, pour cette horlogerie de luxe, elle est finalement du snobisme par rapport au progrès. Ça fait travailler énormément de personnes en horlogerie. Ça fait conserver la main pour l'ensemble de la restauration des pièces anciennes, mais ce n'est plus pour le progrès de l'homme.
Est-ce que l'horlogerie aujourd'hui est menacée ? Puisqu'on sait très bien que maintenant les jeunes ont tous un téléphone portable, vous en avez parlé un peu, oui à l'heure dessus. Est-ce que la montre est encore utilisée, on va dire de nos jours, aussi démocratiquement qu'avant ?
Alors c'est tout à fait curieux parce que cette montre finalement de un certain luxe, cette montre mécanique que l'on refait ou que l'on magnifie dans les magazines, c'est une montre qui a peut-être un attachement assez personnel avec la mesure de son propre temps. C'est curieux parce que il y a les deux. Il y a le fait que pour marquer un événement, on ne va pas offrir une montre en plastique. Et puis, le fait que pour l'utilisation réelle de mesure de son temps dans sa vie, on va utiliser une montre beaucoup plus moderne. Par contre, il est certain que dans les derniers développements, sur la montre a un bel avenir parce que c'est le téléphone qui n'en aura plus, c'est le portable qui n'en aura plus. La montre a un très bel avenir, c'est qu'au poignet, vous allez avoir toutes les fonctions, c'est-à-dire que vous aurez le téléphone, que vous aurez votre montre, puisque ça marque le temps, votre réveil, vous aurez en même temps la possibilité de regarder un film, vous aurez tout sera sur votre poignet, sur une sorte de petit écran tactile qui vous permettra d'avoir sur votre montre toute la modernité.
Alors on a toujours vanté évidemment aussi l'horlogerie suisse comme étant la meilleure au monde, la plus précise, notamment avec des écoles très très importantes qui sont encore d'actualité de nos jours. Les Suisses sont toujours les meilleurs dans ce domaine ?
Oui. Les Suisses sont toujours les meilleurs, ils reviennent de loin, hein. Ils reviennent de très très loin. En fait, c'est un petit miracle qui a été le fait d'un homme qui s'appelait Nicolas Hayek. Et M. Hayek a créé une montre en plastique qui a inondé le monde, qui s'appelle la Swatch. Et avec cette montre, il a acheté toutes les marques de prestige. C'est-à-dire que le groupe Hayek, maintenant, possède Breguet, possède Blancpain, possède des tas de marques comme ça qui sont le nec plus ultra de l'horlogerie. C'est tout à fait curieux. C'est la montre plastique qui a sauvé l'horlogerie suisse puisqu'il a acheté toutes les manufactures qui produisent même pour les autres. Hein. Donc, c'est un petit miracle pour la Suisse. Et il faut avouer que les Suisses ont eu l'intelligence ces dernières années de magnifier leurs produits, c'est-à-dire que pendant très longtemps, une partie de leur production venait d'autre part. Actuellement, quand le Made in Suisse est marqué sur une montre, c'est que la montre a vraiment été produite chez eux. Et c'est un petit clin d'œil à nos produits que l'on devrait magnifier aussi un petit peu dans ces moments un peu difficiles commercialement.
Et qu'est-ce qui fait justement cette différence ? Pourquoi les Suisses sont les meilleurs ? Le petit plus.
Peut-être une rigueur. C'est peut-être une rigueur qui remonte à très loin. Les horlogers ont toujours été à la pointe des idées nouvelles. Et lorsque l'horlogerie a eu, disons, un gros progrès au XVIIe siècle, beaucoup d'horlogers sont passés en Suisse pour simplement une raison, c'est qu'ils subissaient les guerres de religion. Ils avaient embrassé la réforme parce que c'était des gens qui savaient lire, c'était des gens qui avaient une instruction, c'était des gens qui étaient proches de leurs ouvriers. Et donc, ils n'acceptaient pas les dérives qu'il y avait eu auparavant dans l'Église et dans un monde qu'ils jugeaient un petit peu corrompu. Et donc, ils ont été pourchassés, ils se sont exilés en Allemagne, en Angleterre et surtout en Suisse. Et là, ils ont constitué des communautés et ces communautés ont fait la richesse de ce pays. Et donc, c'est peut-être cette rigueur, ce puritanisme aussi peut-être, hein, qui ont fait que les Suisses, comme le phénix, se sont renouvelés pour arriver à recréer une industrie florissante actuellement.
C'était un entretien avec Bernard Seneca, passionné d'horlogerie à ses heures perdues, à propos de l'exposition « La montre de carrosse étant mesurée du voyage de Louis XI à Émile Loubet ». Cette expo sera visible jusqu'au 9 juillet au Musée des Beaux-Arts d'Arras.